Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter et l'instant M se met au vert.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Il est des foyers français où la presse écrite n'entre plus, à part peut-être le programme télé ou le journal qu'on s'offre parce qu'il dit une passion, un hobby, c'est-à-dire un mode de vie, un milieu, une communauté. Le chasseur français existe depuis 131 ans. Les urbains en connaissent les célèbres petites annonces matrimoniales, moins les combats contre les pesticides que le mensuel partage avec les apiculteurs. Le chasseur français, c'est aussi le pouls d'une France rurale qui se sent parfois médiatiquement abandonnée.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Antoine Berton, j'étais déjà en train de faire des blagues en disant que vous n'étiez pas encore rentré de la chasse.
Le chasseur est à l'heure. Bonjour Sonia De Villers.
Ça va, vous êtes très essoufflé. On va vous servir un petit verre d'eau, etc., etc. Plein de problèmes de RER dans Paris.
Voilà, le RRC.
Bon voilà, ben, je pense que vous n'êtes pas le seul à en avoir souffert. Beaucoup de nos auditeurs nous écoutent au fur et à mesure de leur journée de travail et ils savent ce que ça veut dire. Vous êtes le directeur des rédactions du Chasseur français. Vous êtes vous-même chasseur. Quelle chasse vous pratiquez ?
Je pratique toutes les chasses dès lors qu'elles sont bien faites.
Ouais.
Mais je pêche également, je jardine, je cuisine, voilà, je suis un lecteur et un journaliste du chasseur français. J'exprime un mode de vie.
Je jardine et je cuisine, on va en reparler. D'abord un peu d'actualité des médias, comme ça vous allez reprendre votre souffle. Un petit peu d'actualité des médias américains ce matin. BuzzFeed, site américain de divertissement mais également d'investigation. Croissance spectaculaire ces dernières années, on vous en a souvent parlé, avec des ouvertures tous azimuts, dont la France. Mais 100 emplois supprimés sur les 1700 personnes qui y travaillent. Ça a été annoncé hier à New York. Les revenus du site ne sont pas au rendez-vous. Autre info sur les médias américains dont je ne vous avais pas encore fait état. Le Time a été racheté en début de semaine par un groupe de presse qui s'appelle Meredith Corp, qui publie des magazines de famille et d'art de vivre et qui a pour ce rachat bénéficié du soutien des frères Koch. Riches de 47 milliards de dollars, les Koch sont des républicains qui ne partagent certes pas le populisme de Trump, mais qui sont les fers de lance d'un ultralibéralisme virulent. Les démocrates s'inquiète donc de voir un nouveau groupe de presse conservateur émerger et le Time y être absorbé. Voilà pour les actus du jour. On va filer toujours aux États-Unis car hier, stupéfaction des Américains à 7h du matin lorsqu'ils ont allumé la télévision. Disparition brutale de Matt Lauer, le matinalier de NBC. Il y en a plein la presse outre-Atlantique aujourd'hui. Ça méritait un coup de fil à Grégory Phillips, notre correspondant à Washington. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Alors
bonjour,
c'est arrivé hier matin, stupéfaction auprès des téléspectateurs américains. Ça faisait 20 ans que Matt Lauer présentait la matinale d'NBC et ça s'est produit quelques minutes avant l'antenne.
Ah oui, en fait c'est très surprenant, ouverture d'antenne sur NBC. Effectivement, normalement c'est Matt Lauer qui présente cette édition matinale et puis là en fait il y a deux journalistes féminines qui expliquent que Lauer a été viré dans la nuit, décision du patron de NBC, après des accusations de comportement inapproprié, de harcèlement ou d'agression sexuelle, on ne sait pas très bien. Et donc Lauer viré dans la nuit, c'est exactement ce qui était arrivé la semaine dernière déjà à la star de CBS, Charlie Rose. Donc deux présentateurs vedettes, stars de la télé américaine, virés en quelques minutes pour des problèmes de harcèlement sexuel.
Alors deux présentateurs vedettes, deux présentateurs de matinale sur ce qu'on appelle les grands networks américains, qui sont ces grandes chaînes en clair, gratuites, extrêmement puissantes, extrêmement populaires. La matinale télévisée, c'est un créneau qui est très regardé aux États-Unis, beaucoup plus que chez nous en France, Grégory.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on regarde en petit déjeunant dans la cuisine. Et ces présentateurs souvent sont très populaires, très appréciés des Américains. Et les deux matinales, celle de NBC et celle de CBS, qui ont été consécutives au licenciement de leurs présentateurs, étaient vraiment sidérantes à regarder pour nous, Européens, parce qu'on a vu les présentatrices d'abord lire le communiqué de la chaîne et puis exprimer leurs sentiments, dire qu'elles avaient le cœur brisé par ces révélations mais qu'elles soutenaient les victimes qui avaient choisi de témoigner. Et sur NBC par exemple hier matin, les deux présentatrices en ont parlé pendant de très longues minutes pour expliquer combien Matt Lauer avait été un partenaire formidable mais qu'il fallait que les femmes témoignent. Ça c'est vraiment typiquement américain. CBS même avait organisé dans la foulée, la première matinale après le départ de Charlie Rose, un débat avec des victimes d'agressions sexuelles. elle pour témoigner.
Voilà, et les deux présentatrices sur NBC, elles étouffaient carrément des sanglots. Hein. Tout cela fait suite à plusieurs scandales d'affilée dans la chaîne d'information Fox News, qui est la grande chaîne d'info conservatrice américaine, où là, trois grandes têtes, dont des têtes d'affiche à l'antenne, sont tombées les unes après les autres pour des questions non pas de soupçons ou de dénonciations en matière de harcèlement sexuel, mais vraiment pour des plaintes en justice. C'est donc un raz-de-marée qui emporte la télévision américaine, Grégory Phillips.
Oui, et pourquoi NBC licencie aussi rapidement Matt Lauer? C'est parce que la presse est en train d'enquêter sur des comportements inappropriés dans plusieurs médias. Et on apprend par exemple que le New York Times enquêtait depuis 2 mois sur Matt Lauer. Mm-hmm. Et c'est pour ça que la chaîne a préféré prendre les devants. On peut imaginer que les journaux, le New York Times, le Variety, le Hollywood Reporter, enquêtent en ce moment dans toutes les grandes chaînes américaines pour savoir s'il y a d'autres cas. Il y a notamment eu aussi un cas à la radio publique NPR où un des rédacteurs en chef assez haut placé a dû démissionner. Donc on peut imaginer malheureusement que d'autres révélations éclatent dans les prochains jours ou les prochaines
semaines. C'est ça, et qu'à venir, en fait, on risque d'assister à un vrai renouvellement des visages de la télévision américaine et notamment de l'information américaine. Parce que tous ces visages-là, c'est des visages qui accompagnaient le téléspectateur depuis 20 ans.
Oui, exactement. Alors pour l'instant, les remplaçants de Charlie Rose et de Matt Lauer n'ont pas été nommés encore. Ce sont des journalistes qui assurent l'intérim. Mais oui, c'est un véritable tremblement de terre, mais qui est nécessaire, disait hier la coprésentatrice de NBC. C'est nécessaire, il faut que ces femmes parlent et il est nécessaire que les responsables des grands médias prennent leurs responsabilités en dégageant, entre guillemets, désolé de ce terme, les hommes qui se rendent coupables de tels actes.
Merci beaucoup, Grégory Phillips, notre correspondant à Washington. Merci et bonne journée.
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Le chasseur français, 130 ans de chasse, 130 ans de France et 130 ans de petits anneaux. Ouais. J'adore ça, ouais. Ça m'amuse. Ouais. Liliane et Michel, petit gibier coquin, cherche gros fusil gentil pour tir à bout portant, chargeur vite s'abstenir.
Voilà, ça c'était l'hommage de Catherine et Liliane aux annonces matrimoniales, qui sont d'ailleurs toujours dans la rubrique mariage. Il y a une toute petite rubrique rencontre, oui. Antoine Berton, mais c'est toujours sous la rubrique mariage. Vous avez une idée quand même en 130 ans du nombre de couples que vous avez mariés, du nombre d'enfants qui en sont nés?
On parle de 450 000 annonces et environ 80% qui auraient trouvé un aboutissement positif. Et oui. À partir de là, par extrapolation avec le taux de natalité et les variations du taux de natalité, on est arrivé au chiffre de 4,5 millions de naissances entre 1897, donc l'année d'après la première annonce, et aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, dans les centaines d'annonces qui sont publiées mensuellement dans le Chasseur français, il y en a environ une centaine où des personnes recherchent leur cœur. Oui. Voilà. Et ce sont autant de bouteilles à la mer qui sont permanentes à l'ère de Mythique, de Tinder.
C'est ça qui résiste, hein. J'en ai relevé, Pintade plantureuse, 46 ans, cherche épicurien, ayant de l'humour et préférant le bon vivre sans limite au conventionnel frustré. Il y a aussi des hommes, 81 ans, affectueux, 1m65, problème santé, propriétaire de petit appartement, recherche femme sincère pour entraide. On commence par les femmes, il y a des tranches d'âge, on commence par les plus âgées, on va aux plus jeunes. Beaucoup, quand on va vers les plus jeunes, de femmes camerounaises. Pourquoi le Cameroun ?
Alors, parce que ça vient de l'histoire même de la France, oui. Puisqu'elle était en Afrique occidentale au temps des colonies, elle était en Afrique du Nord, elle était en Indochine, et le chasseur français au temps de Jules Ferry, donc mm-hmm. on est à la fin du 19e siècle, a accompagné le mouvement des personnes qui ont fui par exemple l'Alsace-Lorraine qui était sous joug allemand, et qui sont allées s'installer notamment en Afrique du Nord. Jules Ferry l'a encouragé, il n'a pas été seulement le ministre des écoles.
Hein. Non, il a été aussi l'apôtre.
Voilà, et donc le chasseur français a été là pour justement permettre aux couples de se former et de s'installer dans les colonies de l'époque. Et on a accompagné aussi ces rencontres avec des annonces, des tests sur le matériel, sur de l'équipement, sur l'équipement agricole, l'équipement de la maison, l'occupation du temps libre. Vraiment, le chasseur français exprimait dès à l'époque un mode de vie.
Un mode de vie
qui rapprochait les gens. Le président de la République, François Hollande, quand il nous avait reçu à l'Élysée, avait parlé.
Interview du président de la République accordée au chasseur français, ce qui a été quand même une première dans l'histoire du chasseur français.
Ça a été une première parce que le chasseur français a vocation à ne faire ni de politique, ni à parler de sexe, ni à parler de religion. Mmh. Voilà, c'est les trois, c'est le triptyque du chasseur français.
On va y revenir. revenir quand même, parce que la politique, elle se glisse un peu partout. Je dis un mot de ce très beau livre qui s'appelle Le chasseur français, un siècle au cœur de la vie des Français, que vous avez édité chez Solar Éditions. C'est formidablement illustré. On y voit le passé colonial du chasseur français avec
On accompagnait les gens qui étaient dans les colonies. Hein. On ne s'est jamais positionné sur les colonies.
D'ailleurs, vous avez une rubrique d'histoire et dans le dernier numéro, elle est consacrée aux chasses perdues de l'Indochine française et ça mélange quand même une forme de nostalgie et en même temps une forme de lucidité aussi sur l'extermination des espèces sur place. Un dernier mot...
Je reprends, pas d'extermination. Cet article de Thomas Bosslug rappelle un peu la vie en Indochine et la période de chasse. Et donc, c'est vrai, il y a un sentiment un peu de nostalgie parce que on a encore beaucoup de Françaises et Français qui ont eu la période de leur vie dans ces anciennes colonies. Et elles y repensent. Il y a des gens qui ont versé leur sang parce que la France avait demandé à conserver ses colonies. Et voilà, ça fait partie de l'histoire de France. Et Le Chasseur français est un magazine qui a suivi ce processus de l'histoire de France.
Alors, j'aimerais bien... Vous dites que c'est un magazine qui n'a pas vocation à parler politique. En même temps, la politique, elle est partout, à tous les étages de la société. Et évidemment, vous prenez le pouls d'une France qui se sent souvent médiatiquement abandonnée.
Oui, c'est très
juste. France Inter, entre autres.
France Inter a un peu l'habit de la radio de Paris. Oui. Et c'est vrai que nous sommes très honorés de pouvoir parler à France Inter, qui est cette grande maison, ce grand service public de radio. Et c'est vrai que c'est pas si commun d'entendre parler de la ruralité à France Inter. Mmh. Donc, je remercie cette radio de donner la voix de la campagne. Et c'est vrai qu'on regarde le monde rural, la campagne, avec une certaine compassion. C'est-à-dire que le monde va vite et à la campagne, il y a une vitesse qui n'a pas changé depuis la nuit des temps.
Alors, rubriques qui sont assez politiques. Vous êtes à table avec Monsieur le maire tous les mois. Portrait, voilà. Initiative, mais coup de gueule aussi, d'édiles de communes de 300 ou 2000 habitants. Avec François Hollande, vous dites justement la ruralité qui se sent abandonnée, c'est le terreau de tous les extrêmes. Et ce pouls-là, vous le prenez aussi ?
Tous les jours. Bon, par exemple, dans le dernier numéro, nous avons le maire d'une petite commune dans l'Est de la France qui a raboté un tiers de l'image du président de la République, Emmanuel Macron.
Sur parce le que dans sa mairie.
Dans le projet, on va retenir un tiers des revenus de la commune. Ouais. Et donc il dit, mais qu'est-ce qui va nous rester alors qu'on nous demande encore plus de services à l'attention de nos administrés ? Et le chasseur français essaie de justement donner la parole au maire, parce que c'est le dernier rempart contre le tout-État. C'est la personne que l'on élit qui vit parmi nous. Et il y a encore une grande reconnaissance du travail du maire. Et le chasseur français veut donner la parole à tous ces édiles qui se battent au quotidien, des femmes et des hommes, au service de tous. Et malheureusement, aujourd'hui, les vocations manquent parce que la surcharge de travail, la responsabilité énorme qui pèse sur les épaules, n'est pas compensée par l'appui de l'État.
Je vous fais écouter un générique qui va rappeler des souvenirs à tous les insomniaques. C'était nos nuits sur TF1.
Ah oui.
Alors, les histoires naturelles.
Les histoires naturelles, voilà.
Vous aussi, vous avez passé vos nuits devant. Ça fait partie des clichés de la télévision sur la ruralité. On pourrait dire un mot d'ailleurs de L'amour est dans le pré. Depuis 12 ans, M6 qui bat la campagne avec ses rencontres amoureuses. Vous la voyez comment, vous, cette émission ? Comme valorisante ou comme très caricaturale ? Comme pleine de compassion et forcément de clichés ? Ou au contraire, comme une fenêtre ouverte sur un monde qu'on montre peu.
On n'empêchera jamais les clichés. Dès lors qu'on travaille dans un format, par exemple, télévisé, on a un espace-temps, il faut aller au plus vite, il faut aller au plus percutant, parce qu'il faut faire de l'audience. À côté de ça, il y a des gens qui trouvent âme sœur. Et là, je le félicite parce que c'est pas si facile dans les campagnes de trouver quelqu'un à son goût et qui accepte de partager, parce que être agriculteur aujourd'hui, c'est pas si simple. C'est vraiment pas simple. Vous avez des gens qui vivent avec moins de 300 euros moins de 300 euros par mois. Ils se plaignent pas, ils sont au boulot tous les jours. Et quand je dis au boulot, c'est à 5 heures du matin.
Ouais.
Et quand il y a le temps des vélages, ben c'est toute la nuit, on accompagne les bêtes, on vit avec les bêtes. Et franchement, moi je dis chapeau. Alors, j'ai pas regardé l'émission, mais je pars du principe que quand on aide les gens à rencontrer l'âme sœur, c'est formidable. Il y a de la vie, et il y a de la vie à la campagne.
Alors justement, la vie à la campagne, parce que c'est la globalité de la vie à la campagne que vous racontez dans Le Chasseur français, à travers la pêche, à travers le bricolage,
la chasse,
à travers la gastronomie, à travers la table, à travers les recettes de vos lecteurs, parce qu'il y a beaucoup de liens,
oui.
À travers les histoires
très fort,
de vos lecteurs.
Très fort,
il y a d'ailleurs une histoire absolument géniale que vous racontez dans votre dernier numéro, la manif du 14 février 1998. Oui. Dominique Voynet, nous voilà, c'était les chasseurs montés à Paris, et vous racontez, votre lecteur raconte notamment que Julien Lepers avait demandé 50 000 francs aux chasseurs pour animer la manif et qu'ils avaient trouvé ça trop cher. Exactement.
J'ai découvert cette anecdote, mais je rappelle à l'occasion de, puisque vous nous donnez l'occasion de le dire, cette manifestation, alors le chiffre est bas, en fait on a estimé à 450 000 le nombre de chasseurs qui ont battu les pavés de Paris, et ce dont je me rappelle, parce que j'étais juste dans le dos de la personne qui raconte cette histoire, monsieur Christian Gricourt, qui a été un animateur hors pair, il y avait donc tout le parvis de la Tour Eiffel qui était recouvert de chasseurs qui venaient de toute la France et même d'Europe, qui étaient venus là pour exprimer leur attachement à ces activités récréatives dans nos campagnes. Et il n'y a pas eu débordement, il n'y a rien eu.
Et en même temps, on a l'impression, Antoine Berton, que les combats des chasseurs ont changé. C'est-à-dire que quand on lit Le Chasseur français d'aujourd'hui, on voit bien que ce ne sont pas les combats de 98. Vous avez des séquences entières, alerte nature. Vous partagez la colère des apiculteurs, des naturalistes et des écolos sur les pesticides qui tuent les oiseaux, les pigeons, les perdrix, les alouettes. Vous mettez en garde contre la cueillette abusive, le vol des végétaux, les matériaux naturels qui font l'objet de marché parallèle. Vous interrogez des agriculteurs qui refusent qu'on abatte toutes leurs bêtes au nom de prévention pour la grippe aviaire. Donc on voit bien, et là vous avez un gros dossier sur les herbicides, bombes à retardement, que les combats ont changé.
Alors non, le chasseur français a toujours été attaché à l'écologie. Le chasseur est un écologiste. L'écologie, c'est l'interaction entre des êtres vivants et leur milieu. Et la chasse est une interaction, notamment. Mais les combats du chasseur français sont toujours restés les mêmes. On est attaché à une belle vie à la campagne, à une vie positive. Les pesticides, on en a besoin. On en consomme 2,3 kg par hectare et par an. Mais si on peut trouver un procédé différent qui permette à l'agriculteur de ne pas travailler plus, mais de gagner autant, de ne pas perdre en productivité, on foncerait tous dedans. Il y aurait des solutions, mais sauf qu'on n'a pas trouvé de solution pour le moment au glyphosate. Donc la position française, les chasseurs la défendent. On n'en veut plus du glyphosate. Mais en même temps, on ne peut pas dire, voilà, on ne veut plus le glyphosate et agriculteurs, démerdez-vous.
Et en même temps, pas de politique, Antoine Berton, mais des éditos parfois très remontés contre les anti-chasses et leurs relais médiatiques, contre les véganes, les spécistes, c'est-à-dire ceux qui vous tombent dessus quand on abat un cerf qui a été gracié dans une propriété
Puisque vous me donnez la parole sur l'histoire du cerf, je voudrais juste préciser une chose. Le cerf avait été gracié et c'est sur une demande des forces de l'ordre que le cerf a été abattu parce qu'il représentait une menace pour le public. Mais le cerf avait été gracié par les chasseurs. Voilà.
Et ça a suscité beaucoup d'émoi. Mais ce que vous pointez là, c'est moins cette histoire.
C'est que la semaine d'après.
L'amplification médiatique.
La semaine d'après, il y a un cerf qui tue un homme qui traquait. Et là, il n'y a plus rien. Et en fait, ce qui m'insurge, c'est de voir qu'aujourd'hui, on s'émeut beaucoup plus pour la mort d'un animal que pour la mort d'un homme. Et je me demande si notre société n'est pas devenue complètement folle dans les médias, où il y a une sphère qui attaque toute chose qui ne leur plaît pas, et ça fait un effet de boule de neige, et les autres qui ne sont pas habitués à maîtriser ces réseaux sociaux se font laminer. Et c'est là-dessus où je souhaite interroger notre société moderne. Alors je ne vais pas dire que je vais la condamner, je ne fais que m'interroger, parce que mon job s'arrête là.
Voilà, je voudrais
revenir sur...
De...
Je voudrais revenir juste sur une chose, sur l'écologie. Le chasseur est engagé dans des combats en faveur d'une vie équilibrée, une vie positive à la campagne. Vous savez, on a attaqué le suremploi des pesticides, mais on attaque aussi grillagement dans les forêts, parce que là, ça perturbe la vie animale. Quand on perd des chemins ruraux, là aussi, c'est pas bien. Et la Fédération nationale des chasseurs travaille dessus, justement, pour permettre un retour à la biodiversité dans nos campagnes. Et ça, on appuie.
Merci beaucoup Antoine Berton. Le chasseur français de décembre est en kiosque. Le rut des grands solitaires. On parle des sangliers et c'est en une du magazine. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia de Villers. Je cherchais les petites annonces du chasseur français mais bon, j'ai pas trouvé. Pourquoi mangeons-nous autant de plats industriels et pourquoi il faut en consommer beaucoup moins? 01 45 24 7000.